17h11, on va parler d'éducation. Éric Lantier est au bout du fil, un ancien directeur d'école, un gars qui a une maîtrise en éducation, justement. Mais en commençant, je veux lui demander si lui qui est plus loin que la région de Québec, est-il déjà allé chez Barbie's Resto Bar Grill? Salut Éric.
Oui, je suis déjà allé, mais personnellement, je préfère le shaker.
Oh yeah! Y en a-tu dans ton bout?
Oui, tout à fait, absolument. Oui, y a toute une ambiance là-bas. C'est un peu bruyant, mais c'est ouais. Vraiment le fun. C'est là que j'ai été visionner le Super Bowl. Là.
OK. Les tartares, sérieux, c'est une mode là en ce moment, mais je pense pas que ça s'éteigne non plus. Puis c'est les seuls à capitaliser vraiment là-dessus. C'est probablement une des raisons que c'est en train de s'étendre à ce point-là. Je voulais juste, avec le Barbies, une petite note sur 10. Là. Les assiettes sont grosses. C'est quel genre de bouffe, là? Rapidement, sérieusement? Ça m'intéresse.
Moi, je dirais un 7 sur 10 Barbies. Personnellement, je trouve que ça manque d'assaisonnement. Leurs assiettes, je trouve que les plats sont un peu fades.
OK, OK.
Ça manque un peu de punch. Mais dans le sens que rapport qualité-prix, c'est très bien.
Quelque chose qui manque dans le nightlife, c'est une place aussi où on peut s'entendre parler qui met pas la musique à je sais pas combien dès que y a 3-4 verres de but puis la soirée avance. Ça existe-tu ouais. À votre connaissance quelqu'un ici ça un lounge là où tu peux t'entendre parler.
C'est impossible.
C'est quoi le principe? On dit que
le principe c'est que si t'as la musique est forte, t'as un stimuli, demain c'est loin, t'es en train de penser juste au moment présent, tu te saoules, ça te coûte 100 pièces, t'as la tête dans le cul de l'air. C'est ça l'industrie
c'est
de la
comme ça que ça
c'est comme ça le nightlife.
Il y en a qui ont essayé, ils sont plantés.
C'est te faire oublier dans le fond que t'as des responsabilités qu'il y a une vie autre que dans le fond la grosse musique lourde, la barmaid avec un décolleté puis genre l'abondance de boissons. C'est ça la job.
Et honnêtement, oh,
vas-y,
honnêtement, quand la musique est pas forte, on se le fait dire. Quand la musique est pas assez forte puis que les gens s'entendent trop parler, on se fait dire, coudon, il y a pas d'ambiance chez vous.
OK. Ouais, c'est des pistes intéressantes. Changeons de registre.
Oui, éducation.
On voulait parler d'éducation, un ordre des enseignements, c'est une chose qui est des enseignements, des enseignants. Génial. C'est quelque chose qui est dans l'air depuis un moment. Et est-ce qu'on a du nouveau à annoncer aujourd'hui ou?
Ouais, c'est sûr que l'Institut économique de Montréal ont des réserves là-dessus. Moi, je serais plutôt en faveur d'un ordre professionnel des enseignants parce que en ce moment, les syndicats de l'enseignement, il y en a plusieurs, ils ont la mainmise sur, justement, toute la profession, mais malheureusement, ils s'occupent tout simplement des conditions de travail. Ils ne s'occupent pas de la tâche et l'acte d'enseigner. Ils ne s'occupent pas de vérifier si les enseignants sont compétents, s'ils font bien leur travail, s'ils sont adaptés aux réalités contemporaines, aux réalités technologiques.
Ben, c'est clair. Il y a eu quoi? 5 profs en 6-7 ans dans tout le Québec, c'est des dizaines de milliers, là, qui ont perdu leur emploi pour des causes d'incompétence, alors qu'on peut tout s'entendre que, tu sais, juste une petite logique statistique, il y en aurait eu bien plus que ça qui aurait dû revoler.
Ben oui, tout à fait. Puis, je veux dire, combien de personnes vont venir de l'école, combien d'élèves vont venir de l'école, puis vont dire à leurs parents, le cours était plate. Et puis, yes. Aujourd'hui, avec la technologie, avec toutes les smart boards, là, les écrans tactiles, tout ça qui ont été investis puis qui sont sous-utilisés, c'est pas normal que l'acte d'enseigner soit le même ou pratiquement le même qu'il y a 30 ans. Et c'est pour ça que moi, je rêve justement d'un ordre corporatif, un ordre des enseignants qui va faire un peu de ménage là-dedans. Maintenant, dans tout ce qu'on établit, il y a des pour, il y a des contre, et c'est jamais, la réalité n'est jamais comme le rêve, mais au moins on avancerait quelque part, au moins on peut se servir des erreurs des autres endroits, comme en Ontario, pour dire, ben nous, on fera pas les mêmes erreurs, on va partir sur une autre base, on va apprendre de leurs erreurs, puis on va avancer. Puis le focus, là, c'est de s'assurer que les profs incompétents deviennent compétents, sinon, ben, on va laisser la place à d'autres, c'est ça?
Vous allez faire d'autres choses.
Revaloriser l'acte d'enseigner, puis cette profession-là qui est l'enseignement.
As-tu l'impression que les salaires des professeurs, parce que c'est revenu encore sur le tapis récemment, sont trop faibles?
Ben, écoute, je te dirais que oui, mais en même temps, si on gardait le même salaire, mais on libérait davantage les enseignants. En d'autres mots, s'il y avait un peu moins, une tâche d'enseignement moins lourde, je pense qu'il y a bien des gens qui accepteraient ce salaire-là. Le problème, c'est que le salaire correspond pas, à, je te dirais, à, au niveau de défis auxquels fait face l'enseignant. Si l'enseignant avait moins de charges, ah oui. Parce qu'écoute, le problème quand on enseigne, là, on est dans un tourbillon, ça n'arrête jamais. Si on avait le temps de s'arrêter et avoir des réunions avec les collègues pour dire, bon, on a tel problème, comment on règle ça en équipe?
Okay.
Quelle stratégie pédagogique on pourrait utiliser? J'ai eu de la difficulté à passer cet élément-là dans mon cours. S'il y avait ça, une dynamique de groupe qui était institutionnalisée, je te dis, les enseignants auraient du fun parce que...
Mais pourtant, il y a des journées pédagogiques où ils sont supposés de rentrer pareil puis pas de rester chez eux à prendre congé. Il y a des périodes aussi, tu sais, mettons, au primaire, le prof qui a sa classe toute l'année, mais quand ils vont en art plastique, il y a toujours bien une heure et demie où il y a du temps pour planifier des affaires puis peut-être jaser avec son directeur d'école, puis etc. Les vacances d'été, il y a toujours bien 6-7 semaines où il y a pas nécessairement de travail, il n'y a pas besoin de rentrer à l'école. Puis les salaires, c'est quoi le salaire moyen? C'est un peu plus que 50 000 $. Tu peux atteindre de 70 000 à faire ça. Puis on n'oublie pas le temps des fêtes, on n'oublie pas les journées de relâche comme on a par les temps qui courent, etc. C'est quand même intéressant comme condition, là.
Ouais, non, ben oui, je comprends ce que tu dis, mais pour l'avoir vécu moi-même de l'intérieur, là, dans différents contextes, moi j'ai enseigné en milieu urbain, en milieu rural, école privée, publique. Écoute, je peux te dire une chose, c'est que le problème, oui, il y a des périodes de libération, mais il n'y a pas de leadership pour nous encadrer et dire, OK, au lieu de endurer les problèmes, parce que moi, souvent, j'allais voir mon directeur, ma directrice, j'ai un problème avec ça, ben, en d'autres mots, je sortais et disais, ben, occupe-toi-en, c'est ta responsabilité.
Ouais.
Mais si on avait des périodes de libération pour dire, on est en équipe, on va résoudre des problèmes en équipe, on va s'appuyer, on va aller consulter la recherche pour voir comment on peut solutionner ça. Est-ce que ça a marché ou pas? Là, à ce moment-là, il y aurait une dynamique pédagogique, mais il n'y a pas de leadership pédagogique. Les directeurs d'école, là, ils sont là pour voir est-ce que tout le monde rentre le matin.
Ils n'ont pas de pouvoir. En d'autres mots, est-ce que la correction, c'est vrai que ça prend tant de temps que ça aux professeurs? Il me semble qu'au primaire, ça doit pas être trop compliqué de corriger des examens.
Non, c'est ça. Mais sais-tu quoi? Oui, c'est vrai que ça prend du temps, surtout en français, là, parce qu'il y a beaucoup de textes à lire, puis c'est pas comme la réponse A, B, C, D ou un calcul mathématique, t'as la réponse ou tu l'as pas. Mais on pourrait utiliser, par exemple, des gens du milieu, des bénévoles. Par exemple, il y a des personnes là qui sont dans soixantaine, qui sont encore très lucides, qui sont très bons en français, qu'on pourrait utiliser, par exemple, pour aider à la correction. Il y a tellement de recettes qu'on pourrait aller chercher puis s'inspirer des autres pays qui innovent. Puis c'est pour ça que moi, j'aimerais ça qu'il y ait une corporation des enseignants qui amène ces idées-là pour donner un souffle nouveau à la profession.
Au lieu de toujours souhaiter le conservatisme, le conformisme, c'est vraiment un empêcheur d'avancer, le syndicat des enseignants au Québec. Ils sont pas... À chaque fois qu'il y a une réforme d'amener, on n'est pas prêt, puis il faut pas faire ça, puis on était bien dans notre petit confort, en d'autres mots. S'il y avait quelque chose, une organisation pour contrebalancer ça, ça pourrait être intéressant. Effectivement, pourquoi ça arrive pas? Justement, je pense que le syndicat a pas envie nécessairement. C'est eux autres qui bloquent, quoi.
Ben, c'est sûr que le syndicat aurait moins de pouvoir. Et ce que je trouve étonnant, c'est que les syndicats disent qu'un des problèmes à la corporation ou l'ordre des enseignants, c'est que ça servirait à prime abord à assurer la protection du public. Ça, c'est leur argument.
Okay.
En d'autres mots, c'est le public qui s'est privilégié. Et moi, je me dis, ben voyons donc, c'est justement ça qu'on veut.
Rondi, t'avais quelque chose?
À savoir, est-ce que l'ordre, est-ce que vous êtes obligé en tant que professeur au Québec de faire partie d'un syndicat?
Ouais.
Oui, on est obligé. C'est la règle. Même si on veut pas faire partie du syndicat, on est obligé. C'est le facteur RAND qu'on appelle.
La formule RAND classique. Ouais. On s'en sort pas bien, bien. OK. Peut-être qu'on pourrait contrer du décrochage. C'est notre prochain sujet, toujours dans le domaine de l'enseignement. Tu voulais nous parler de décrochage qui serait peut-être en augmentation, là, encore une fois, chez les francophones, c'est ça?
Ben, c'est ça le problème. Moi, écoute, un gros segment de mon projet de recherche à la maîtrise était sur le décrochage scolaire. Et moi, ça m'a toujours préoccupé. Qu'est-ce qui fait que des jeunes décrochent? Et là, moi, ce qui m'a jeté à terre, c'est que selon les statistiques du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, là, Eh bien, les immigrants de deuxième génération, ceux qui sont nés au Québec de parents étrangers, sont plus persévérants dans leurs études que les Québécois dits de souche.
Les Canadiens français.
Exactement. Puis moi, je me dis, bon, puis un des arguments, c'est que les Québécois, les Canadiens français, comme tu les appelles, considèrent qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un diplôme pour gagner sa vie honorablement.
Ouais.
Et donc, je me dis, moi, c'est du nivellement par le bas. Tu sais, c'est pas très stimulant quand tu dis, bon, j'en ai pas besoin d'un diplôme. Est-ce que ça te donne le goût de te dépasser, puis de te dépenser, puis de te forcer? Non. Mais le problème, c'est que ce qui est soulevé dans les études, dans les recherches, puis dans les publications, c'est que de plus en plus, la main-d'œuvre tend à se spécialiser, puis il va y avoir de plus en plus un besoin de main-d'œuvre spécialisée. Mais le problème, c'est que si les Québécois sont sous-spécialisés, c'est eux qui vont obtenir les moins bonnes jobs, les jobs avec les moins bonnes conditions de travail.
On va devenir les porteurs d'eau qu'on a déjà été.
Je serais curieux de voir après ça la troisième génération, parce que tu sois en affaires, que ce soit l'éducation, l'immigration, la première génération, elle a eu tough, là, à travailler fort, fait que, tu sais, genre,
elle pousse
ses enfants, puis là, la deuxième génération l'a quand même rough, puis à un moment donné, qu'eux autres, quand ils en ont, elle, jamais, moi, je serais pas comme mon père qui me l'a mis rough à tous les jours. Fait que, tu sais, il y a toujours comme la troisième génération qui finit par l'avoir un petit peu plus facile, si on veut.
C'est intéressant.
Oui, ça, c'est vrai. C'est un bon point que tu soulèves. Ça, on va pouvoir étudier ça dans une dizaine d'années.
Pour moi, ils ont...
Monsieur Demers.
Pour moi, ils ont eu leurs parents, je parle ici des immigrants, ils ont eu leurs parents qui l'ont tellement eu pas facile que ça les a incités, ça les a motivés à réussir puis à travailler. Puis, puis je pense, moi, que la prochaine génération, elle aussi, elle va être incitée à travailler.
Ouais,
la
autant.
Troisième.
Ouais.
Ah oui, autant.
La cinquième, peut-être moins. Là.
Oh, peut-être.
Bonne question. Peut-être. On rentrera ça dans une étude, un de ces quatre. Dernier sujet, avant qu'on se laisse, Éric Lantier, Martine Ouellet, on voit qu'elle s'accroche, elle ne décroche pas, peut-être qu'elle devrait. Et tu voulais nous parler de style de leadership par rapport à ça. Tu as trouvé une petite étude là-dessus ou un petit portrait?
Oui, c'est ça. Ben, ce qui arrive, c'est que si on analyse son style de leadership, puis je rentrerai pas dans toutes les catégories de style de leadership, mais elle est associée à un leadership qu'on appelle autocratique, donc top-down, de haut en bas.
Ouais, ouais,
le problème, c'est qu'elle va pas tirer la force de l'équipe. Et moi, j'ai appris une chose là, au fil des années. Que quand on prend la place de quelqu'un, on arrive à une place qui a déjà une culture d'établie, c'est pas le temps de tout changer puis de tout casser.
Non.
C'est le temps de rallier les gens autour de son leadership. Puis comment on fait ça? On va chercher les meilleures idées de chacun. Puis on avance tranquillement avec le groupe pour inspirer confiance. Puis une fois qu'on a la confiance, là, on avance avec une idée qu'on dit, bon, ben maintenant que vous êtes avec moi, on avance ensemble.
Donc, ça prend de la patience. De la patience puis de l'écoute. Elle est arrivée là avec ses gros sabots, elle a voulu tout changer. Puis si tu fais ça, par exemple, faut que tu sois irréprochable. Puis moi, j'entendais des histoires elle reprend le communiqué de quelqu'un, elle l'envoie, puis finalement, il y a des erreurs de français là-dedans, de tout bord, de tout côté, puis ça veut même pas dire, il y a des phrases qui veulent rien dire, etc. Ouais, elle a échappé pas mal, puis en plus, la situation du bloc était précaire. Alors là, c'est le temps de te prendre ton... surtout pas le temps d'être un leader top-down. Faut que tu amadoues ceux qui peuvent faire que la situation va finalement basculer vers... là où on ne veut pas aller, surtout.
Mais faut avoir le tour de s'accorder avec les autres aussi.
Ben, okay.
Exactement. Puis comme tu le soulèves, là, une des lois du leadership, selon John Maxwell, c'est la loi du momentum.
Oui.
Et malheureusement, le bloc est à la queue, puis le bloc ne forme plus l'opposition officielle depuis plus de 20 ans, puis elle se comporte comme si elle est la chef de l'opposition officielle, comme si c'est la reine de la Chambre des communes, puis comme si tout le monde... doit faire ce qu'elle demande. Eux autres, ils étaient là avant elle. Ils ont développé des stratégies, développé une force d'équipe. C'est pas le temps d'arriver comme une boule de quai.
J'aurais une question, Éric.
Oui.
Monsieur Demers.
Mais on a parlé longuement de ce sujet-là, de Martine. Là. Crois-tu qu'elle devrait aller chercher sa légitimité auprès des 20 000 membres qui lui restent? Puis régler ça au plus sacrant.
Ben, c'est sûr que si elle veut s'accrocher au pouvoir, c'est la chose à faire. mais je te dirais qu'elle n'a plus de légitimité, elle n'a plus de crédibilité. Et dans aucun parti à titre de chef, là, je veux dire, dans aucun parti, dans un poste de leadership, c'est fini, elle brûle.
C'est fini.
Mais même si elle y allait avec ce qu'on apprend de tout bon de côté, la Davy. Je sais pas à ça, on n'est pas dans la défense des intérêts du Québec, on est dans la promotion de la souveraineté. Fait que s'ils perdent leur job, tant mieux pour nous autres, ça va nous donner des arguments. Ça a sorti tout ça, c'est fini. Les 20 000 membres pourraient pas voter pour elle. Puis d'ailleurs, ils ont pas eu à se prononcer pour qu'elle se présente comme chef, qu'elle devienne chef. Merci Éric Lantier,
merci.
Toujours un plaisir.
Oui, et en terminant, j'aimerais tout simplement dire que j'ai signé une entente avec les éditions Liberté Numérique pour sortir mon premier livre qui va paraître au mois d'octobre.
OK, à quel sujet?
C'est ma vision d'un Québec démocratique. Alors, ça va être un recueil de tous mes articles que j'ai écrits sur la plateforme du Prince Arthur Herald et du Huffington Post.
Ah bon?
Et qui va faire étalage de ma vision du Québec sur différents sujets sociopolitiques.
On manquera pas de lire ça, on a le temps de s'en parler aussi.
Est-ce que tu as parlé de l'édition? De quelle édition? Dans quelle édition ça serait?
Oui, les Libertés numériques.
Ah, Libertés numériques, je ne connaissais pas. On va fouiller là-dessus. Merci beaucoup, Éric. Bonne fin de journée. C'était Éric Lantier, chroniqueur dans Politique Correct, ancien directeur d'école, un gars qui a une maîtrise en éducation, un gars qui écrit, comme il vient de le mentionner dans le Huffington Post, et le Prince Arthur Herald.
Je lui aurais demandé, Éric, le plus grand irritant, mis à part des élèves comme toi et moi, Tigui.
Ouais, t'as pas des
en tant que professeur.